Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. Oh, ça va être magnifique, on va se régaler pendant 2 heures, comme tous les lundis, une équipe type autour de moi, une top équipe autour de moi, et puis surtout, c'est la dernière semaine de l'année après ces vacances de Noël. On va profiter de vous pendant 2 heures tout au long de la semaine. Il y aura des surprises à commencer par aujourd'hui. Donc restez bien à l'écoute. La grande émission d'entrée avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va Benoît?
Ah bah en pleine forme, c'était le repas de Noël Roten sans flamme ce midi.
C'est vrai.
Tu nous as invités au restaurant et tout, bravo.
Oh, incroyable de le dire.
Hein. Ah bravo.
Ouais.
Incroyable, tu nous as régalé.
Quoi. On est avec, j'aurais voulu régaler Christophe Dugarry, mais il est trop loin. Salut Christophe.
Salut Jérôme. Salut Benoît, bonsoir à tous. C'est vrai, c'est toi qui as réglé Jérôme?
Ah, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai.
Oh, ouais, magnifique. Ouais,
ouais. Magnifique.
Combien l'addition? Parce que là, ça y va. Là,
c'est vrai, combien l'addition d'ailleurs?
Je sais pas, je compte pas, moi j'ai filé ma carte.
Non, ça t'a valu un selfie. T'as laissé un selfie, t'as dit je suis passé dans le resto, ça suffisait.
C'est vrai qu'ils auraient pu. Hein.
Ça, c'est une technique France 98.
Il a dû payer que des pizzas, il a dû payer à mon avis, non?
Pas loin.
Pas loin. Bah, attends, c'est pas moi qui ai choisi, hein. Non, ils veulent manger ça. Non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Il a dit choisissez ce que vous voulez. Bon, c'est, ouais. On a pris des pizzas.
En plus, ils n'ont même pas pris de dessert, c'est con. Ils sont bêtes. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Eric Dimeco avec nous. Salut Eric.
Comment ça va, Jérôme?
Ça va,
salut Dugas, salut Benoît, salut à tous. Écoute, je voudrais passer quand même la confrérie des poularders de Brest, quand même. J'étais intronisé chevalier de chancelier de la poularde de Brest. Voilà, bon, avec les grandes gueules, il y avait Olivier Truchot, Alain Marchal, Anaïs Sept, Didier Giraud. Petit concert d'Osiris le soir. Donc,
ça devait être sympa le week-end.
Et merci à Samuel qui s'est occupé de nous, qui a été royal. Et merci à tous les gens de Louan là-bas parce qu'ils ont été
allez voir sur les réseaux hein,
et on a ramené plein de poularde à la maison.
Voilà. Ben magnifique.
Bravo. On remercie
elles sont bonnes, hein. Elles sont belles et elles sont bonnes.
On remercie
elles
les 25
sont,
qui sont venus voir les 25 qui sont venus voir
le concert.
Il y a beaucoup de monde.
Bon, les 25 invités, je te parle parce que les autres ils ont payé.
L'événement dans Roten sans flamme ce soir, c'est donc la prise de parole de John Textor.
Wow,
rendez-vous 19h, supporter lyonnais. John Textor va nous raconter sa version de l'histoire, son rôle à l'Olympique lyonnais, pourquoi il a été écarté de la présidence de l'OL, ses relations avec la DNCG, avec Jean-Michel Aulas, avec Michel Kang. Tous ces sujets seront abordés avec de la contradiction, avec du débat. Ça a chauffé parfois, vous allez voir.
Jean-Michel.
Mais en tout cas, vous aurez la version de John Textor.
À mon avis, il ne doit pas y avoir grand-chose de sa faute, à mon avis.
Ah bah, tu verras. Rendez-vous 19h sur RMC pour ce grand moment. Ne ratez pas ça.
Je ne me sens pas très courageux là.
Ah bah, tu verras.
Du gars, t'as écouté l'interview ou quoi?
À 18h45, allô Jérôme, un président historique de la Ligue 1 va nous rendre visite. Gervais Martel, président du RC Lens, lorsque Lens a décroché son titre de champion Bollard. En 98. Gervais Martel se régale avec la saison des Lensois qui sont champions d'automne. Et il viendra nous en parler donc à 18h45.
J'aurai un plaisir de l'accueillir, Gervais.
Exactement, il est le bienvenu et on a hâte de parler du RC Lens avec lui. À 18h30, le procès de tous ceux qui méprisent l'AS Monaco. Sacré coup de gueule de Jérôme Roten. Il n'en a pas dormi cette nuit. T'en as marre, là t'en as ras-le-bol. Monaco n'est pas considéré, tu commences à en avoir ras-le-bol.
Mais franchement, il faut le dénoncer.
Tu sais que t'auras un allié dans ce procès. Je te dis pas qui, mais tu verras. T'auras un allié dans ce procès.
Les deux normalement.
Ah bah tu verras. Écoute, rendez-vous à 18h30 pour ce magnifique procès.
Il y a peut-être Monseigneur qui va appeler pour être avec toi.
C'est possible. Et puis vous le savez, on est au mois de décembre.
Ton avis.
Ah bah on verra.
On l'embrasse.
C'est déjà Noël sur RMC.
RMC vous offre un fabuleux Noël.
Et aujourd'hui, on remporte des cadeaux high-tech. iPhone 17, télé QLED, AirPod Max, montre connectée, MacBook Air, ça c'est la spéciale Jérôme Roten. Restez bien à l'écoute et surtout envoyez Noël par SMS au 732-16.
Là, je vous annonce gros cadeau.
Par SMS au 732-16.
Et là, ça va pas être 500 euros.
Gros cadeau?
Ouais, je l'annonce.
Pas mal.
Et s'il l'est pas?
Ah, oula.
C'est moi qui.
Tu régales tout le monde aujourd'hui alors.
Incroyable,
cette générosité.
C'est Noël.
Ah, c'est fou.
C'est Noël, c'est la magie de Noël.
Allez, 18h04 sur RMC, Jérôme.
Même changer quand le cadeau, changer.
Tout de suite, même quand c'était dur, les Marseillais n'ont jamais rien lâché.
Lâche pas l'affaire, même quand ça se coule.
Qui
faut pas se faire transpercer parce que s'il n'y a pas pénalty, attention à la frappe de Samardzic et le but. Et le but de Samardzic.
Les amis, est-ce que t'as les épaules vraiment pour tenir Marseille? Moi je te pose la question.
L'Olympique de Marseille droit au but, c'est ça.
Contrairement à ce que certains peuvent dire, ben, l'équipe elle est forte. À la fin du mercato, on avait fait déjà un point. J'avais dit que les joueurs étaient forts, que l'équipe était forte, le coach était fort.
Moi je pense que si on veut atteindre nos objectifs qui est de devenir une grande équipe, il faut forcément rebondir tout de suite.
Premier poteau, Aubameyang, but, le doublé de Pierre-Emery Aubameyang. Et c'est fini, l'OM tient sa deuxième victoire en Ligue des Champions.
Greenwood, oh le but, Mason
Marseille est encore évidemment sur le podium de Ligue 1.
On a l'effectif pour faire des grandes choses et on doit continuer à travailler. Ça va pas être facile.
Bien sûr que tu prétends au titre.
Marseille a donc battu Monaco hier soir, 1-0. Le but de Mason Greenwood, l'inévitable Mason Greenwood, un OM bousculé qui a concédé 2 buts refusés pour hors-jeu, mais qui termine l'année donc avec 3 points. 3 points qui permettent aux Marseillais de passer les fêtes sur le podium de la Ligue 1. Rappelons que sportivement, Marseille est dans les clous de ses objectifs. 3e de Ligue 1, 16e de Ligue des Champions, en position de se qualifier pour les barrages. Parlons-en avec Florent Germain, notre correspondant à Marseille. Salut Flo.
Salut Benoît. Salut les amis, Flo. Salut à tous.
Alors, tu as eu l'écho du coach. Comment De Zerbi juge la première partie de saison marseillaise alors?
Écoute, on va l'entendre, mais ce qui est marrant, c'est de noter que ce match contre Monaco, il est un peu à l'image de la première moitié de saison de l'OM. Il y a eu du bon, du moins bon, de la tension, des émotions, parfois un peu de jeu, parfois laborieux. Et deux hommes forts dans ce match, Rulli et Greenwood, un sauveur et un buteur. Et c'est vrai que le coach Roberto De Zerbi, bah, au milieu de tout cela, il a tenté d'analyser la première moitié de saison. C'était à chaud après la rencontre, mais cela ne l'a pas empêché, écoutez, d'être plutôt lucide.
Et andando a casa natale, la domanda che io mi farò.
Sur la route des vacances de Noël, j'aurai le temps de me demander si je suis vraiment satisfait ou non de cette première moitié de saison. On doit être content de ce qu'on a fait. La victoire contre Monaco montre qu'on a du caractère, de l'orgueil. Mais c'est vrai qu'on a perdu trop de points de manière stupide dans ce non, je ne peux pas être satisfait à 100%. Pourtant, on est dans le coup encore en Ligue 1, en Ligue des Champions. Et on a vraiment débuté la saison, je le rappelle, début septembre. Et on a joué sans des joueurs importants comme Traoré, Medina ou Guiri. Et je pense qu'ils vont nous aider à améliorer la qualité de notre jeu.
Voilà,
il a quand même insisté là-dessus. Sur la qualité de jeu qui doit être améliorée, je pense que ça va plaire à Duga. Aguerre et Aubameyang qui partent à la CAN, ça sera aussi l'un des éléments à prendre en compte pour le mois de janvier, qui verra aussi les retours de Medina, Traoré et Guiri. Roberto De Zerbi en parle quasiment à chaque conférence de presse, donc on a hâte de voir janvier-février, quand l'OM sera au complet, quelle sera la vraie valeur de cet effectif olympien.
Reste avec nous Flo, comment jugez-vous la première partie de saison de l'OM, 32-16, pour participer au débat de Rotten sans flamme? Jérôme.
Bah, pour moi, il faut dissocier deux choses. Les résultats, c'est bon, les résultats, que ça soit en Ligue des Champions, c'était mal barré au bout d'un moment, mais ils se sont remis dans le droit chemin. Une victoire tous les deux matchs,
trois victoires sur six.
Ouais. Donc ils sont totalement dans les clous sur leur objectif d'être dans les 24. Donc là, pour l'instant, ça va. En Ligue 1, même si à mon goût, par rapport aux objectifs très très élevés du club, ils devraient être un peu plus proches du premier de championnat ou du Paris Saint-Germain. Ils ont une défaite de trop, je pense. Perdent 4 matchs depuis en 16 matchs. Je pense que si tu as des objectifs très élevés en Ligue 1, tu dois, sur la phase retour, gommer quelques défaites et pas accepter de reperdre 4 fois sur la deuxième partie de saison. Parce que si c'est le cas, bah, ils finiront 3e, 4e, 5e du championnat. Et je pense entre 3 et 4, parce que 5, il commence à y avoir un petit écart.
C'est 2 points par match, la moyenne.
Oui, donc c'est pour ça qu'en termes de résultats, il n'y a rien à dire. Mais moi, je suis désolé, quand on fait un bilan sur les premiers mois, un peu comme De Zerbi, lui, se posera sur la route des vacances tranquillement, même s'il n'a pas voulu nous le dire, mais il s'est déjà posé, il le sait très bien. C'est largement insuffisant dans le contenu des matchs et dans cette fameuse axe de progression qu'on peut ressentir chez les équipes sur la première phase et sur les premiers mois, parce que c'est toujours comme ça. Moi, je ne demande pas que Marseille dégage de la force, de la régularité et beaucoup de force sur l'ensemble des matchs depuis le début de saison, parce que le plus important, c'est de tirer le max de cette équipe en mars, avril, mai. C'est là que ça se gagne et on le sait tous dans tous les cas. Maintenant, est-ce qu'il y a des motifs de satisfaction de ce côté-là et des motifs d'espoir sur cette phase de progression? Moi, j'ai envie de te dire que non. Pourquoi? Parce que les joueurs ont montré leur bonne période au mois de septembre allez, jusqu'à mi-octobre, la première trêve internationale. Là, il y a eu des bonnes choses. En très peu de temps, ce groupe s'est formé parce qu'il y a des arrivées tardives au mercato d'été. Mais très vite, ils ont dégagé de la force collective. Tu vois, et je trouve qu'ils ont fait des bons matchs à cette période-là. Et c'est vrai. Et on était le premier. Et ça s'est traduit par une bonne série où ils ont enchaîné les victoires. Et des matchs cohérents, comme le déplacement à Madrid en Ligue des Champions, cette victoire contre l'Ajax. Si tu vas aller jusqu'au match.
C'est la même période. Hein,
voilà, non, mais c'est pour ça, c'est la même période. Donc là, ils dégageaient de la force, surtout collectivement. Après, individuellement, les mecs, ils devaient se mettre au niveau et montrer de la progression. Et De Zerbi aussi, la main mise sur son groupe. Moi, je l'ai protégé l'année dernière, tout au long de l'année dernière, parce que c'est sa première année. Et le plus important, c'était d'avoir, en effet, la qualif en Ligue des Champions. Il l'a eu. Mais cette année, on est en droit. Et Duga, lui, il a été très dur avec lui l'année dernière. Il continue et je vais dans son sens. Parce que dans cette fameuse progression, là où je suis pessimiste pour Marseille, c'est que je la sens pas. Je sens que en fait c'est trop fragile pour une équipe qui, comme on entendait dans la prod, Mehdi Benatia qui dit on a des joueurs forts, on a une équipe forte, c'est pas vrai. Moi, tu vas pas me mentir. T'as pas aujourd'hui une équipe qui est forte et des joueurs qui sont forts. Alors, il y en a. Il y a Greenwood, Rouli, Flo, on a parlé, on l'a encore vu hier. Et heureusement que ces deux-là sont là. Moi, je pense
actuellement,
que...
tu performes quand même, hein, parce que t'es dans les clous de tes objectifs.
Non, moi, je te dis juste que après, il y a le côté d'avoir les résultats. Si tu regardes les résultats, dans ces cas-là, il y a pas de débat. C'est satisfaisant, c'est bon. Non. Si tu regardes le contenu et la progression d'une équipe, je te dis, c'est insuffisant. Et c'est insuffisant. Et là, il faut pas se tromper. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on me parle des absences et des blessures de Traoré, de Guerri, de Medina. Ok, d'accord, pas de problème. Guerri, on a vu comment il avait été traité au mois d'août. Donc aujourd'hui, c'est le génie qui va te changer l'attaque d'Olympique de Marseille.
Non, c'est juste qu'il a un autre profil.
Mais au mois d'août, Guerri passait en retraite beaucoup de joueurs. Mais bon, moi, je constate
dans la rotation,
juste,
tu vois bien que certains attaquants sont fatigués et que Guerri est très bien. C'est juste ce qu'il rappelle.
Non, mais t'as raison, Flo, de rappeler ça. Moi, je dis juste que la rotation, pas la rotation, je trouve que la progression est De Zerbi, c'est le chef d'orchestre, il doit le montrer, à l'image de ce match d'hier où il est totalement dépassé et il joue trop à Football Manager. Pour moi, voilà, c'est un pro de Football Manager. Un coup, un première mi-temps, une première demi-heure, il va jouer comme ça. Après, il y a des joueurs qui changent de position, mais t'imagines dans la tête des joueurs. Alors, en plus de ça, c'est pas pour la majorité des grands joueurs. N'en déplaise à ceux qui les ont recrutés. Pour la majorité des joueurs, ce ne sont pas des grands joueurs. Quand tu les perturbes comme ça, changement de position, un coup je joue à gauche, un coup je joue à droite, un coup je joue dans l'axe, un coup je joue en numéro 10, un coup je joue en numéro 6. Non mais franchement, c'est totalement dépassé. Et je trouve que, en effet, moi j'ai des gros doutes sur la deuxième partie de saison s'ils se posent pas les bonnes questions.
Duga, hein, comment tu la juges cette première partie de saison alors?
Un peu comme Jérôme, après les résultats sont quand même là malgré tout. Voilà, t'es toujours dans la course en championnat, bien évidemment, comme on l'a dit, ils sont en passe de se qualifier, même si c'est loin d'être fait, attention, pour le tour suivant en Ligue des Champions. Après oui, bien évidemment, je reste sur ma faim sur cette compo d'équipe de début de match. Je suis encore ultra surpris, quoi. Je comprends pas ce qu'ils cherchent à faire. Je comprends pas ce milieu de terrain aussi faible dans la créativité. On peut jouer avec le Vermeulen, le petit en numéro 10. Alors depuis quand lui il s'est joué dos au but, j'ai pas compris. Alors après tu nous sors Kondogbia à la 46e minute. Bon, OK, pour nous mettre Riley, OK, lui aussi, mais c'est tout ce que t'as au milieu de terrain à l'Olympique de Marseille. C'est tout ce que t'as même Nadir sur le banc de touche, tu fais le jouer le petit, tu nous as mis le petit en Ligue des Champions, là je me souviens plus son nom. Tu nous le mets en Ligue des Champions sur un match hyper important, et là tu le fais plus jouer et tu me mets deux trois mecs au milieu de terrain. Je suis désolé, mais qui ont les pieds tordus, ils sont bien gentils, ils sont généreux, ils jouent proprement, mais ils sont incapables de faire une passe
devant la défense. Il est bon,
bah oui,
voilà, mais dans le jeu face à lui, mais pas là-haut, il est bien capable de faire une passe entre deux, il est capable d'avoir une passe lumineuse. Ce milieu de terrain, il est d'une pauvreté, mais c'est affligeant. Et je comprends pas que De Zerbi n'arrive pas à trouver des solutions bien meilleures que ça. Alors, je sais pas si on reviendra sur le match ou pas d'hier, mais tu te rends compte que tu reçois Monaco sur un match aussi important que ça. Tu joues avec deux attaquants. Monaco, ils arrivent à l'extérieur, ils arrivent jusqu'à la fin, ils te jouent avec quatre attaquants. Ouais. Non, mais au bout d'un moment, l'OM, c'est tout ce que t'es capable de proposer. Alors, tant mieux. Ils ont un gardien magnifique, ils ont peut-être le meilleur attaquant du championnat actuellement, ils ont un Aubameyang qui fait des efforts, en veux-tu en voilà, il commence à tirer la langue, le pauvre, il en peut plus, mais bon nombre d'efforts, mais qu'est-ce que c'est pauvre. Alors tant mieux pour l'OM, tant mieux pour les supporters, tant mieux pour l'entraîneur qui peut sortir de cette première partie de saison la tête haute, mais que c'est pauvre, mon Dieu, c'est ennuyeux, c'est ennuyeux, c'est le football d'aujourd'hui, tant mieux pour eux, voilà.
Bon. Duga, on est en train de te perdre. Eric, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Le constat, moi je suis d'accord avec Jérôme sur le constat comptable. L'OM a ses objectifs. L'OM joue le podium. L'OM est sur le podium. L'OM est meilleure attaque de Ligue 1, je crois. Ils doivent être
avec un but d'avance.
Troisième. Ouais, ouais. Voilà. Mmh. Donc ils doivent être deuxième ou troisième défense. Il y a un gros trou qui s'est créé avec le cinquième, d'après ce que j'ai en tête.
C'est ça, ouais.
Donc on peut dire que même en continuant sur ce rythme-là, l'OM atteindra les objectifs. On est obligé, si on veut juger le début de saison de l'OM, de parler de la Ligue des Champions.
Eh oui.
Et la Ligue des Champions, on est d'accord pour dire que, puisqu'on a des génies dans cette radio qui ont fait les comptes, tu assures avec un point de plus une qualification cette année, je crois.
Oui, c'est ça, 10 points.
Tu prends encore un point, tu auras 99,9% de chances de qualifier.
Ça serait con d'être dans le 0-1.
Et Pierrot Doria, qui est soi-disant le plus intelligent d'entre nous, qui n'est toujours pas vérifié.
D'accord.
Ce qui est toujours pas vérifié. Il a dit, voilà, avant 18h, ouais, avant 18h et après 15h, c'est-à-dire avec tous les deux nœuds avec qui il bosse, hein, parce qu'il bosse avec des rugbyman, des footeux, des basketteurs, donc il a pas de mal. Mais lui, il nous dit même qu'à 9, avec le bon gueulage de l'OM, ça passe. Bon, donc ça veut dire que tu es dans tes objectifs. Alors tu peux te satisfaire de ça. Tu peux aussi te dire qu'avec ça et les problèmes. Alors il y a deux choses. Il y a le rythme des matchs, hein, qui fait que certains étaient inquiets. C'est pas pareil 4-2 comme l'an dernier. Tu joues que le championnat et 4-2 tu joues et le championnat et la Ligue des Champions pour atteindre tes objectifs. Donc on peut aussi le mettre au crédit de l'OM que malgré tout, malgré la multitude de matchs et la gestion de l'effectif de Zerbi, tu es dans les objectifs. Je suis pas un grand fan des changements, hein, je vous l'ai dit, puisque moi je pars du principe que tu pour travailler la qualité de jeu et pour accumuler des bons résultats, il vaut mieux avoir une ossature assez commune. Sauf que aujourd'hui le sélectionneur, aujourd'hui le coach, il peut te dire mais moi avec la multitude de matchs que j'ai eu, j'ai été obligé de concerner tout le monde et surtout de faire souffler des mecs. En plus j'ai eu des blessés et malgré tout je suis dans les objectifs. Donc tout ça c'est du côté positif. Après il y a le côté négatif qu'on peut regarder. Je pense que les supporters de l'OM sont pas dupes. Quand on s'amuse tous à regarder s'il y a eu un match plein de l'OM, on est obligé chaque fois de dire l'Ajax.
Ouais, c'est ça, tu remontes.
Il y en a eu trois à tout casser. Allez.
Il faudrait que tu me trouves les deux autres.
Paris, ça reste un bon match. Après, c'est avec les valeurs qu'ils ont eues. Mais c'est sûr que
oui, t'as pas dominé. Non, mais ce match-là, je te l'accorde, il peut faire partie des matchs. Voilà. Moi, sur le match d'hier soir, par exemple. Moi, je me suis régalé. Le mec qui est neutre qui regarde ce match hier soir, Non, mais oui, mais tu peux le regarder d'une manière. Tu peux être objectif en disant, il s'est passé des choses. C'est aller de côté ou de l'autre. Monaco n'est pas venu en victime, n'est pas venu mettre le but, c'est venu attaquer, a eu des occasions.
T'as une semaine pleine de réussite quand même à Marseille.
À l'arrivée, tu sors avec des stats pas pour ceux qui, puisque c'est le football d'aujourd'hui, tu peux dire que il y a eu possibilité de 2-2 avec 18 frappes d'un côté, 18 de l'autre, 11 cadrés, 10 cadrés, voilà. Donc c'était un match qui était vivant, qui était pas toujours de qualité, mais qui était vivant avec du suspense, puisque on a cru à un moment donné que Monaco allait gagner, puis finalement c'est l'OM qui gagne, voilà. Donc je pense que les Monégasques sont pas très contents de ce qui s'est passé hier soir, mais pour les fans de l'OM et les gens qui sont neutres, tu as vu un match vivant sur Canal+ le dimanche soir.
Qu'est-ce que tu veux dire que c'est bien ou c'est pas bien?
Il est nuancé.
Toi, sur le match d'hier, tu trouves des satisfactions? satisfaction plus, en fait. Hein,
d'ailleurs, ouais. Je te dis que pour voilà. Et ensuite du côté négatif donc, ah. Eh ben il y a obligatoirement une question sur la qualité de jeu de Zerbi, mm-hmm. voire même sur ses compositions d'équipe. Les supporters, une grande majorité des supporters, même ceux qui sont contents, comme je le suis des résultats et du classement.
Ouais, mais à Marseille ça suffit pas, Eric, tu le sais très bien.
Mais même ces gens-là te disent que on a du mal à comprendre et à voir la progression. Moi l'an dernier, comme toi Jérôme, en contradiction avec Duga, je faisais partie de ceux qui défendaient De Zerbi parce que il venait d'arriver. Pour moi, il n'avait pas fait le recrutement. Là cette année, il est impliqué et à l'arrivée. J'arrive pas à voir si on est une équipe de possession. L'an dernier, à un moment donné, on avait la possession stérile là qui servait à rien. On s'était dit tiens, c'est ça le jeu de Zerbi, mais on s'ennuie. Après, à un moment donné, on a vu en début de saison, notamment les matchs au Real où il y avait ce pressing qui était fait et un jeu de transition qui moi me plaît. Moi, j'aime le jeu de transition. C'est vrai, ouais. Sauf qu'on l'a plus vu ces derniers temps parce que c'est pauvre techniquement. Voilà. Alors donc, je
hier, c'est ce qui s'est passé.
Il va falloir pour avoir une bonne deuxième partie de saison progresser dans le jeu. Alors peut-être que le progrès viendra des absences. Ouais. Tiens Medina qui est pas là, Tiago Gouiri qui est pas
c'est
là.
C'est surtout devant tu peux pas faire tourner Eric, c'est voilà, ça le problème.
Voilà.
Les donc, trois ils jouent tout le temps, donc c'est ça qui est dur.
Peut-être que dans le recrutement, quand tu as pris autant de défenseurs centraux l'an dernier on en avait pas et de coup il en vient arrivé quatre là, Egouane Riley, Pavard, Aguert et Medina. On est d'accord. Peut-être que au lieu de prendre quatre alors que tu en avais deux l'an dernier. Il aurait fallu en prendre un de moins et prendre un mec, un meneur de jeu par exemple,
créatif.
Parce qu'on nous dit créatif, c'est-à-dire un mec qui l'an dernier
mais il manquait déjà Rabiot
jouer
en haut.
Mais il ne fait pas jouer.
Il est pas numéro 10.
Non, mais c'est qui
Mais
tu peux faire. Mais le petit Nadir, tu peux le faire jouer.
Mais
la seule solution dans l'effectif de l'OM que tu as aujourd'hui, c'est mettre Angel Gomez ou le petit Vermeeren en numéro 10. C'est la seule solution que tu as.
Ne me dis pas que si tu as une recrue de plus avec un défenseur central de moins.
Bien évidemment, c'est dans le monde
qui du coup a plus. Allez, parce que quand tu prends 4 défenseurs centraux, moi je me dis va jouer à une défense à 3 défenseurs centraux. Sauf que il perd mieux terrain et du coup il se rend compte que c'est mieux de jouer à 4.
Donc le seul problème de l'OM, c'est qu'ils n'ont pas pensé à prendre un numéro 10 supplémentaire.
Ah moi je
c'est
pense que non, il y a d'autres soucis, il y a des absences, il y a la qualité que de jeu de Zerbi, mais il y a aussi peut-être qu'il est limité offensivement.
Il faut accueillir Mousse au 32-16
offensivement.
Jérôme,
il est pour rien alors.
Oui.
Salut Mousse. Tu
m'écoutes ou tu m'écoutes pas du gars quand je te dis le jeu de Zerbi.
Oui. Mousse, c'est tout.
Est-ce qu'on peut dire bonjour à Mousse?
Mousse, mais du gars et Eric d'accord, s'il te plaît.
Ouais, non, mais moi je bonsoir à tous déjà.
Salut Mousse. Ça faisait longtemps. Hein.
Eh oui, Eric, ça va, mon poteau, ça va ou quoi?
Oui, frérot. Je me faisais du souci, je t'entendais plus, j'avais peur qu'il te soit arrivé
mal. Mon gâté.
Mais non, j'étais tout le temps dans le négatif chaque fois que j'intervenais. Mais là, je vous trouve un peu dur, les gars. Je vais vous expliquer pourquoi.
Vas-y.
Alors, De Zerbi, ok, des choix bizarres, tout ça et tout. Mais moi, quand je retrouve ça, c'est la saison. On démarre la saison avec une grosse histoire où on est à deux doigts d'avoir une grosse crise. C'est l'histoire avec
Rabiot.
Cette histoire, moi, je pense qu'elle a laissé pas mal de séquelles pendant quelques temps.
Parce qu'il y a eu des bons résultats derrière avec.
Pourtant, il y a une bonne phase au mois de septembre.
Oui, ouais, mais c'est ce qui nous a sauvés, hein, je vous dis. Parce que si on fait des mauvais résultats, qu'on enchaîne avec pas mal de mauvais résultats ensuite, il y a une crise. Donc, on y a échappé. Ensuite, les blessés, c'est pas n'importe qui.
Mais toutes les équipes, elles ont des blessés, Moussa. Toutes les équipes, elles ont des blessés.
Non, mais laisse-moi finir, Guga, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Voilà. Donc, c'est ça. Ensuite, le recrutement...
Il est bon ou pas?
Non, il est moyen, très moyen. Très moyen. L'anglais, là, le 4, là. Ça, vous allez à la gare. Charles à Marseille. Vous prenez le premier mec qui s'y joue un peu au ballon. Il est meilleur que lui, hein, le défenseur central.
Il fait flipper, ouais, c'est vrai.
Bah, il joue voilà, plus. Lui, il est. Voilà. Donc, ensuite.
Il
y a eu un moment où même Pissao, qui a eu du mal, il a éclaté le premier match contre l'Ajax. Mais aujourd'hui, quand on fait le bilan, moi je trouve que avec les joueurs très moyens qu'on a, surtout dans le recrutement.
C'est un peu dur.
Mais c'est le discours contraire des dirigeants et de l'entraîneur, Mousse.
Moi, depuis le début de la saison.
Mais Mousse, écoute-moi. On a eu le directeur sportif et l'entraîneur qui te dit on a un effectif fort, on a des joueurs forts. Et tu es en train de nous expliquer le contraire de ce que disent les dirigeants. Donc moi, je l'entends ton discours et je suis assez d'accord avec toi. Mais alors, comment c'est
que tu dis qu'on est dur, t'es encore plus dur que nous.
C'est découpé les mêmes.
Mais tu crois qu'ils vont te dire le contraire? Tu crois qu'ils vont te dire mais on a recruté que des ânes, on a recruté que des chiens? Mais bien sûr qu'ils vont te dire ah mais le recrutement il est parfait.
Mais alors nous dis pas qu'on est dur alors, parce que t'es encore plus dur que nous.
Mais moi je constate sur le terrain que c'est compliqué, et heureusement qu'on a Rulli et qu'on a Greenwood, que j'adore d'ailleurs, et que souvent il est critiqué. Si on a passé de là, aujourd'hui, on n'est pas au classement où on est. Donc, pour en revenir aux dirigeants, ils peuvent pas dire. Moi, je le critique pas, Benard, c'est vrai, parce que c'est pas. Je sais pas les moyens qu'ils ont. Je sais pas comment ça se passe.
Bah, ils sont pas pauvres non plus, Marseille.
Ils peuvent nous dire que tout le recrutement. Le petit là qu'ils ont fait venir de Lille et les moyens.
Gomez.
Il y a trop de joueurs moyens. Il manque de talent.
Ah bah ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord,
voilà. Ce qu'il en tire de Zerbi de ce groupe qui est très moyen.
Mais peut-être que tu as un coach qui est très moyen aussi.
Bon, Mousse, merci d'être venu au 32-16. T'as bien fait, t'as raison, on était beaucoup trop dur avec l'OM. Toi, t'as apporté une vision. Ouais,
il a pas dit qu'il y avait un bon joueur. Si, Greenwood.
Tu te rends compte que même hier, de Zerbi, il nous parle que l'équipe, elle est fatiguée. Ils font le même nombre de matchs. À chaque fois, il nous sort l'excuse que son effectif, il est fatigué. Alors j'entends le turnover en attaque qu'il pourrait y avoir avec un joueur de plus. Mais quand même.
Un grand merci.
Toute la saison, ça va être ça. Ah, ils sont fatigués. Ah, il y a des blessés. Ah, il y a eu le problème Rabiot. Ah, il y a eu le.
Il est obligé de trouver des excuses, merci du gars. Quand tu prends une leçon, comme il a pris hier, une leçon par rapport à Pocognoli, parce que Pocognoli, il a mis.
N'exagère pas non plus leçon aussi. Marseille avait perdu de la même manière que Monaco.
Hier.
On aurait fait un débat en disant Marseille a craqué, etc.
Franchement, hier.
Donc Monaco, ils ont été énormes hier.
Mais Monaco doit gagner ce match-là largement.
Ils ont loupé aussi des occasions. Ils se sont fait prendre comme des bleus sur l'occasion à la 82e. Enfin, faut pas non plus survendre Monaco. Exagérer.
Sur le match d'hier, excuse-moi.
Ils sont 9e Monaco. Ils sont 9e Monaco. Ils sont
en place.
Sur le match d'hier, ils doivent gagner tous les jours.
Ouais, mais s'ils ont un avant-centre dans la semaine et qu'ils ont vendangé 20 occasions, c'est la faute de l'OM.
Voilà, c'est pas la faute de l'OM.
Je te parlais du jeu. C'est pas un hold-up hier soir.
Bah non, c'est pas un hold-up hier soir.
Ah bon?
Non, mais il y a bien sûr.
C'est un miracle. C'est un miracle.
Mais non. Bah, s'il y a une victoire en point, c'est Monaco qui gagne.
C'est même flot. C'est un miracle hier.
Un peu de réussite, mais c'est pas
un peu de réussite.
Mais oui, il y a une réussite, mais c'est pas un hold-up.
Il y a
des occasions. Il y a O'Reilly qui loupe le cadre. Il y a Greenwood qui a des occasions. Le début de rencontre pendant 10 minutes.
Mais pendant 10 minutes, oui, c'est vrai.
Ils ont joué une demi-heure sur
une Flo, t'es pas lucide sur le match.
Merci Flo d'être venu.
Valeur de cette web.
Merci Flo, bonne soirée à toi. Bye bye, dans un instant justement le procès de tous ceux qui méprisent l'AS Monaco. Jérôme était en colère ce matin, vous allez entendre ça. Un grand procès qui vous attend, à tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h32 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme. La deuxième demi-heure, c'est maintenant. C'était chaud la première demi-heure sur l'analyse de cette première partie de saison de l'Olympique de Marseille. Avec Eric Dimeco, avec Christophe Dugarry, avec Benoît Boutron. Dans 10 minutes, on va recevoir figure du RC Lens.
Ah ouais. Gervais Martel, l'ancien président du RC Lens, le président lorsque le club a décroché son titre de champion en 98. Lens est champion d'automne et ça mérite d'en parler. Voilà, on va rendre hommage au Racing Club de Lens à 18h45. Et supporter lyonnais, l'événement du soir, c'est donc l'interview de John Textor qui a choisi RMC pour s'exprimer, pour donner sa version des faits après tous les risques qui ont entouré l'Olympique lyonnais. Voilà, c'est vérité. écouter les vérités de John Textor sur la DNCG, sur Jean-Michel Aulas, sur Michel Kang. Rendez-vous 19h pour cette interview. Mais tout de suite, c'est le procès.
RMC, Roten sans flamme.
Juve, Barça, Chelsea.
Ah ouais. Et il finit. Et t'as choisi le PSG avec Vaïd.
Ouais,
il était dépressif à l'époque. Mais...
toi, l'amour d'un club, tu l'as pas. Ça, on l'a vu. Voilà. Donc, moi, je l'avais.
Non, mais
voilà,
alors...
donc j'ai choisi. Après.
Non, mais au-delà de la vanne.
Si, j'avais l'amour, je suis revenu à Bordeaux quand on avait la queue entre les jambes.
Ouais, t'es revenu à Bordeaux parce que t'es pas le choix, en fait.
Le procès de Roten sans flamme.
Ah, il a eu des grands moments sur RMC, quoi. Ouais, incroyable.
Il m'a attaqué, tu te rends compte.
C'est donc une défaite difficile à digérer pour Monaco hier. La 5e défaite sur les 6 dernières journées de Ligue 1. Monaco est 9e à 9 points du podium. Monaco a eu les occasions pour s'imposer et s'est vu refuser 2 buts. Rien à dire sur le 2e à la 81e. Balogun est bien hors jeu. C'est plus litigieux sur le 1er but refusé.
Plus litigieux.
Il était hors de position, il n'a jamais joué le ballon, il n'était pas vraiment impliqué sur l'action, mais il a emmené avec lui Naïef Aguerd. Ah ouais. C'est ce qui a convaincu l'arbitre assistant de lever son drapeau. Incompréhension chez les joueurs. On peut souligner la grande classe de Sébastien Pocognoli qui a refusé de polémiquer. Mais ça a engendré une grande colère de Jérôme Roten. Alors ouvrons donc le procès de tous ceux qui méprisent l'AS Monaco. On a 2 procureurs ce soir. Jérôme Roten, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Éric Dimeco, bonsoir.
Ah, bonsoir.
L'avocat dans ce procès, c'est maître Christophe Dugarry. Bonsoir.
Salut.
Et on a Loïc, supporter monégasque, pour rendre son verdict. Salut Loïc.
Bonsoir messieurs.
Salut Loïc. Sois le bienvenu. Bonsoir. Allons-y, Jérôme. Ça t'a rendu fou toute cette histoire. Tu en as marre qu'on méprise l'AS Monaco dans le foot français?
Oui, parce que en fait, c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais joueur. Et quand on dit que t'es joueur à l'AS Monaco, que l'équipe en début de saison, elle doit être plus forte pour gagner des titres, c'est vraiment le cas. Alors pas que par rapport au contexte, parce qu'on en fait des tonnes par rapport au contexte monégasque, et à juste titre, hein, tu vois, il y a été très souvent dans le confort à Monaco, à la Turbie là-haut, on en parle, on va pas revenir sur tout ce que représente ce club, en effet, le fait qu'à Monaco, c'est un village, et que les gens sont pas tous passionnés de l'AS Monaco, donc ils te laissent tranquille, donc il y a ce côté-là, et puis ce côté aussi, respect des institutions, respect des médias envers l'AS Monaco. Et le ressenti que j'avais quand j'étais joueur, on l'avait tous, et je pense que les joueurs aujourd'hui l'ont encore, et se confirme à travers ce genre de décision hier. Et moi, c'était vraiment un coup de gueule que j'avais envie de donner. Alors, bien sûr que je me sers de ce qui s'est passé hier sur ce but refusé, parce que moi je vous pose une question. En fait, si ce but est marqué par l'Olympique de Marseille ou par le Paris Saint-Germain, si tu veux, sur un autre match, je suis persuadé sur un gros match que ce but est accordé. Alors que Monaco, ça fait pas de bruit et ce but est pas accordé. Alors c'est invérifiable, hein, ce que je dis. Hein. Mais
donc tu remets en cause l'impartialité de l'arbitre.
Mais en fait, il y a des façons, parce que vraiment, ce qui s'est passé hier est quelque chose qui est terrible pour le football, en fait, et pour la relation qu'on a entre le corps arbitral, les médias et les joueurs de football et l'AS Monaco et les dirigeants. Mais franchement, refuser ce but hier en nous donnant cette explication-là que il fait action de jeu parce qu'il gêne Aguerd ou quoi que ce soit. Non, mais c'est
donner une explication. Il n'y a pas eu d'explication.
Non, mais nous, c'est ce qu'on.
Il n'y a même pas eu de visionnage de VAR. Hein. Ils étaient sûrs d'eux.
Hein. Si, je crois qu'il y a eu visionnage.
Si, il y a eu visionnage. Il y a eu visionnage, sauf qu'ils ont
visionnage
confirmé.
Par l'arbitre de Sade, t'es allé voir?
Non, visionnage
Le visionnage, mais bien sûr que dans la VAR ils visionnent. Voilà. Ils sont là pour ça. Parle de visionnage de l'arbitre de Sartre.
Ah,
c'est-à-dire qu'ils étaient tellement sûrs de eux qu'ils ont même pas demandé à l'arbitre d'aller voir. Et l'arbitre était sûr de eux.
En fait, c'est plus là-dessus, sur le respect qu'on doit avoir de l'AS Monaco. Monaco est un grand club, n'en déplaise à certains, est un grand club français qui a toute sa place en Ligue 1, bien sûr, mais aussi que tu dois respecter à sa juste valeur avec tout ce que l'AS Monaco a pu faire sur les Coupes d'Europe.
Il y a
deux clubs au-dessus. Il y a le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. On est d'accord. mais Monaco doit être greffé à ces équipes-là. Mm. Et si, encore une fois, le traitement il est différent, ce n'est pas normal. Et moi, je suis là pour le dénoncer, parce qu'en effet, on est un média parisien, on est ici. Moi, je vois comment on peut traiter l'AS Monaco. Moi, ce qui me dérange plus, c'est pas le traitement qu'il y a dans les médias, parce que moi, je fais une émission Rotten sans flamme tous les jours, et on parle beaucoup plus de certains clubs que de l'AS Monaco, et je suis aussi responsable de ça. Mais n'empêche que c'est au niveau des instances. C'est pas possible aujourd'hui de ne pas respecter Monaco à sa juste valeur. Et c'est le cas sur ce match d'hier. Parce qu'à l'arrivée, cette erreur qui est sur un gros match, un match important hier, qui est inadmissible, cette erreur, comment déjà, 24 heures après, on peut pas avoir d'explication?
Alors, est-ce que je peux ramener une pièce au dossier? Parce que la Fédération française de football vient de communiquer, la direction technique de l'arbitrage qui a publié son communiqué des décisions arbitrales du week-end. Et cette situation relève d'une zone grise. Plusieurs critères d'interprétation existent. C'est pour ça que ça n'aboutit pas nécessairement à la même décision, but valable ou but refusé. C'est effectivement cette position de hors-jeu et si le joueur fait action de jeu ou non. Donc la Fédé insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'erreur manifeste au sens du protocole de l'assistance vidéo, même si on aurait tout à fait pu accorder le but dans cette situation. Donc on est dans la fameuse zone grise où certains arbitres vont décider qu'il y a but et d'autres vont dire
Je te disais ce matin quand on discutait de cette action.
Et juste pour donner après la parole à Eric, je finis là-dessus. L'arbitre assistant qui est pour moi le responsable de cette erreur, comment à 50 mètres de l'action, parce qu'à peu près il est à 50 mètres de l'action, comment lui à 50 mètres de l'action, il peut prendre la responsabilité de lever le drapeau alors qu'il est complètement à l'opposé de l'action? D'accord.
L'action elle est allée au bout.
Oui, mais derrière il lève le drapeau. Il lève le drapeau. C'est lui qui dit qu'il y a enjeu.
C'est lui qui signale.
Mais c'est la VAR qui prend la décision de conforter.
Oui, mais quand tu lèves le drapeau, décision. La preuve, c'est que, regarde Eric, ce que je te dis. Si tu lèves le drapeau, si tu lèves pas le drapeau et qu'il n'y a pas une erreur manifeste, comme ils le disent aujourd'hui dans le communiqué de la Fédération française de foot, ils accordent le but. Comment ce monsieur-là, assistant, j'ai pas son nom, il peut se permettre.
Alors que c'est pas ceux qui font action de jeu.
À 50 mètres de l'action, il se rend compte que le mec, il arrive 3 mètres
Il regarde l'action. Alors, allez.
Il regarde l'action, mais c'est son boulot de voir
qu'il y a un jeu. Juste 2 secondes, coup, pour laisser du temps à Duga. Moi, je suis d'accord avec Jérôme. Et l'exemple significatif, c'est la réaction des Monégasques après le match. C'est-à-dire que, normalement, si ça arrive à Paris, à Marseille, à Lyon, il y a tout le monde qui gueule après le match. Là, le coach, il dit non, mais je vais pas me.
Enfin, on va pas critiquer un peu de place, Eric, quand même.
Non, je critique pas. Non, vous comprenez pas. Jérôme dit Monaco. Il faut savoir que l'AS Monaco, il y a toujours eu un problème de légitimité d'être rentré par effraction. On a joué là-bas avec Jérôme. Monaco n'est pas en France et est accepté dans le championnat de France. Et donc, si tu veux, bon, je l'ai connu avec le président Campora. C'est-à-dire que ils ont toujours fait en sorte de jamais faire de vagues, de jamais contester, de jamais profiter de leur avantage. Il y a eu une période où ils auraient pu profiter de leur avantage fiscal beaucoup plus que ça. Sous l'ère Campora, ils en ont pas profité. Maintenant, ils en profitent parce qu'ils ont bien raison, ils ont un avantage. Mais à l'époque, ils faisaient toujours attention à tout et tu n'attendras jamais de polémique à Monaco. Et bien sûr que du coup, ça joue contre eux. Parce que quand il y a une décision un peu litigieuse, eh ben tu sais que l'entraîneur derrière il va dire non mais c'est
ouais,
tu
vois, exactement.
C'est voilà, donc c'est pas, ça explique pas la décision d'hier soir ni le résultat. Je comprends ce que Jérôme veut dire sur le fait que Monaco n'est pas traité comme les autres et tout ça parce que ils ne veulent pas être traités comme les autres. Ils sont trop discrets, ils sont trop dans leur range.
Du gars. Parole à la défense,
je pense. Mais j'ai jamais entendu des arguments pareils de ma vie. C'est-à-dire, comme ils gueulent pas assez, ils sont pas traités comme les autres.
Non, mais tu peux pas le savoir, jamais joué là-bas, Dugas.
Ah, ben bah, là, il n'y a plus de débat, alors. Ah, mais non, mais il n'y a plus de débat, là, mais tu m'as sorti. Le seul argument que vous m'avez sorti, c'est à l'époque avec Campora. Oh, bah, tu parles d'un argument. Aujourd'hui, Monaco est maltraité parce qu'à l'époque, Campora, déjà, à l'époque, mais n'importe quoi. Monaco, ils sont pas traités. Pourquoi ils sont pas. Déjà, quelle preuve et sur quel fait vous basez pour vous dire qu'ils sont pas traités comme les autres?
Bah, la preuve, c'est, je te dis,
c'est une expérience de vie, il y a 30 ans. Aujourd'hui, s'ils sont pas respectés, Monaco, ils sont 9e au classement, ils sont catastrophiques. Ils sont incapables d'aligner deux performances de qualité.
Si tu veux qu'on parle du niveau, on va être tous d'accord.
Mais ils sont pas respectés. Mais c'est eux qui se respectent pas.
On est tous d'accord.
Ils font que des contre bonnes idées. Mais tout est nul.
Jérôme, ils sortent sur ce qui s'est passé hier pour expliquer que Monaco est un club à part.
Oui, c'est vrai.
En Ligue 1 et que ça joue contre eux des fois.
Ces joueurs paient pas d'impôts. Ils sont un sacré club à part. Ils ont plutôt un avantage.
Les joueurs français.
Oui, les étrangers ne paient pas d'impôts. C'est plutôt un avantage. C'est quand même pas un inconvénient.
Qu'est-ce que tu penses de l'argument de dire Monaco est moins respecté dans les instances que les autres clubs de Ligue 1? Et que si l'OM avait été frappé par cette erreur d'arbitrage, le but aurait été accordé. Qu'est-ce que t'en penses?
Mais n'importe quoi, c'est des procès d'intention qui ne veulent rien dire. Et moi, j'en rigole. Non, mais là où ça me fait rire, c'est que Eric et Jérôme nous a expliqué il y a quelques semaines de ça, quand les polémiques sur les arbitres ont été trop loin, je ne parle plus de l'arbitrage. Et là, ils nous remettent encore une espèce d'idée de n'importe quoi en disant, oui, si ça avait été l'OM, si ça avait été Paris, la décision, ça aurait été différent. On les respecte pas parce que le but leur a pas été accordé. Non, mais on va pas trop loin, là. C'est pas du grand n'importe quoi.
Non, mais ce qui s'est passé hier soir, et notamment dans la conférence de presse après, montre cet état d'esprit. Même le coach, n'importe quel coach en France, après ce match-là, il aurait parlé
au scandale.
N'importe quel coach en France. Et ça aurait été normal en plus.
On aurait une photo de Mehdi Benatia.
Ça aurait été normal.
Déjà, sans commentaire.
Alors, Monaco a publié la vidéo du but dans l'après-midi.
Ouais.
Sans commentaire.
Est-ce que je peux juste dire deux mots sur cette histoire de truc? Parce que j'ai connu Dugas, peut-être Jérôme, non, mais Dugas était dans le circuit. Moi, j'ai connu le changement de règle entre le hors-jeu qui était sifflé de tout le temps
l'hors-jeu de position était sifflé
et où on a parlé de hors-jeu passif, c'était à 95 je me souviens, début de saison, on a un match j'étais à Monaco-Nice, arbitre monsieur Bata, que je connaissais bien puisqu'il était marseillais, derrière le match, donc il avait eu des situations de hors-jeu passif et donc gros débat derrière dans le vestiaire de l'arbitre, parce que pour moi cette règle du hors-jeu passif, elle est anti-foot pour moi. Parce que pour moi, il n'y a jamais de hors-jeu. Il n'y a jamais de hors-jeu passif. Je m'explique. Tu es latéral gauche, ok? Tu as une action qui se passe de l'autre côté. Tu as l'ailier de l'autre côté qui est hors-jeu et qui ne fait pas l'effort de revenir. C'est-à-dire que le mec, il joue. Et toi, tu es défenseur, tu fais 2 mètres en avant pour le mettre
hors-jeu.
Ok? Ouais. Et là, tu as un mec qui part de l'autre côté. Qui n'est pas en jeu, le ballon lui vient et il va au but, c'est facile. Mais le celui qui est, mais même s'il est à 50 mètres de l'action, un mec, un attaquant qui traîne, qui oblige la défense, qui fait que la défense se monte pour le mettre en jeu, eh ben il fait une action de jeu. Hier soir pour moi, Balogun, Aguert, s'il fait 2 pas vers l'avant pour le mettre en jeu, il fait action de jeu obligatoirement. Et du coup, les arbitres avec cette histoire de hors-jeu passif, ils se sont mis dans une merde parce que tu vas voir que maintenant on va tous les regarder, les hors-jeux passifs, maintenant. Avec ce qui s'est passé hier soir. J'attends de voir comment ils vont être jugés. Alors qu'avant, tu étais hors-jeu.
Le verdict de Loïc, le supporter monégasque. Qui remporte ce procès? Jérôme et Eric ou Christophe?
Alors, ça va paraître étonnant, mais je vais être du côté de Dugas. Sur ce procès-là. C'est mon club. Ce qui s'est passé hier soir, franchement, j'étais écœuré. L'attitude de Pocognoli à la fin du match, elle est noble. Elle est tout à son honneur. Et pour une fois, c'est vrai que ça change. Et honnêtement, de toute façon, ça aurait rien changé que Pocognoli râle. Et ça aurait rien changé dans la foulée. Alors oui, tu mets pression sur l'arbitrage. Est-ce que ça change quelque chose dans la foulée? Honnêtement, après ce procès-là, écoute, cette semaine, Marseille.
C'est vraiment un club à part. Même le supporter, il est objectif à Monaco. C'est quand même un club à part.
Mais ça me déconne, les gars.
Alors là, les gars, c'est juste en fait, ce procès-là.
Tout le monde est trop gentil à Monaco.
Marseille, dans 3 semaines, aura l'arbitrage contre lui. Marseille râlera. Paris l'aura à nouveau contre lui. Alors après, la différence, oui, c'est vrai qu'on a toujours été traité différemment en France. Ça, on peut pas dire le contraire.
Allez, faut y aller.
On a cette image de club tout gentil, tout propre. Monaco,
tout le monde adore Monaco.
Il y a un cadre qui est particulier. On le cultive aussi à Monaco. C'est comme ça. Après, est-ce que ça change quelque chose hier soir, honnêtement ?
Si les supporters sont contents et le coach est
content, tout va bien.
Victoire de Liga 2, merci Loïc. Et dans un instant, un autre club que toute la France aime, c'est le Racing Club de Lens, qui est champion d'automne. On sera avec Gervais Martel d'ici quelques secondes. À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h48 sur RMC, les 10 dernières minutes de la première heure de Roten sans flamme. Mais quelle deuxième heure qui nous attend avec Christophe Dugarry, Eric Dimeco et Benoît Boutron. Pourquoi ? Parce que il y a un retour dans l'émission, c'est John Textor qui sera là à partir de 19h. Mais avant, on reçoit la légende lensoise, Gervais Martel.
Allez, c'est parti.
RMC, Roten sans flamme.
Lens est une histoire formidable. Gervais Martel y est pour beaucoup. Une formidable aide d'honneur lui est faite.
Je sais pas quoi dire. Quel club ?
Allô Jérôme.
Et oui, Lens va passer les fêtes de fin d'année en tête de la Ligue 1. Incroyable. Sixième victoire consécutive ce week-end pour Racing. 2-0 face à Nice, doublé d'Hudson-Edouard. Lens est en tête depuis le 30 novembre avec un sacré bilan désormais, 37 points après 16 journées. C'est un point d'avance sur Paris, 5 d'avance déjà sur l'OM. Le président historique de Racing Club de Lens est en direct dans Rotem sans flamme, Gervais Martel, Jérôme.
Bonsoir Gervais.
Salut tout le monde, salut les gars.
Ça va Gervais ?
Pleine forme.
Non mais c'est incroyable ce qui se passe au RC Lens là. Qu'est-ce qui... Vous allez être champion encore ?
Ah, écoute, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, écoute. Moi, je crois que on fait une première partie de saison qui est exceptionnelle. On a trop de défaites. On fait jamais nul ou presque. On gagne. On a une équipe qui a été beaucoup renouvelée, mais avec des gens qui sont acclimatés tout de suite. Et vous les connaissez aussi bien que moi, Thauvin, Sangaré, Edouard. Enfin, bref, toute l'équipe est au diapason. Il y a une super ambiance. Il y a une super ambiance dans le club. Avec Benjamin Parot qui est arrivé, Jean-Louis Descaux à la direction sportive. Il n'y a rien qui va mal, comme dit l'autre. Hein.
Tu es, comme Gervais, comme d'habitude, j'imagine que tu rates pas un match à Bollard.
Bien sûr. Bollard, c'est quoi à l'extérieur ? Quand c'est pas trop loin, j'y vais. J'étais à Paris. On n'a pas été ridicule.
Ouais.
Et non, je fais tous les matchs, évidemment.
Bon, ta satisfaction, t'as parlé du travail un peu de tout le monde, collectivement et tout ça, mais ouais. est-ce que t'as un coup de cœur en termes de joueurs ? Tu parlais de Sangaré, moi, c'est mon coup de cœur depuis le début de saison. Est-ce que...
Moi aussi, mais bon, c'est difficile de sortir un joueur plus que d'autres parce que c'est le collectif de Lens qui fait sa réussite. Mais c'est vrai que Sangaré, il marche sur les traces d'un joueur que tu as méconnu, qui est Seydou Keïta. Il est sur le deuxième but lensois, il fait une transversale.
Incroyable.
Vous avez bien fait gaffe de 40 mètres dans les pieds, roule ma poule et.
Gervais Martel, président historique du RC Lens, en direct dans
Rotten sans flamme.
Eh oui, j'allais vous en parler justement alors, parce que c'est la belle histoire aussi de cette saison lensoise, c'est la magnifique acclimatation de Pierre Sage qui est arrivé en succession de Will Steele, ça s'était passé moyennement avec le coach belge Will Steele. Là, ça a tout de suite pris avec Pierre Sage. Est-ce que c'est de la magie ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que Pierre Sage est le coach idéal pour un club comme le RC Lens ?
Bah, écoutez, je vais vous répondre oui, mais c'est tellement facile. Mais moi, je vous réponds oui parce que j'ai eu l'occasion de l'accueillir quand il est arrivé, de discuter quelques fois avec lui. On sent que le mec, il en a dans le ventre, quoi. Et j'ai eu l'occasion de voir les entraînements aussi. Je peux vous dire que ça rigole pas dans la bonne humeur, mais ça rigole pas. Donc, ça veut dire que pour moi, c'est un metteur en scène idoine par rapport aux qualités de l'équipe. Et notamment sur les matchs extérieurs où il arrive à faire orchestrer un pressing très haut de notre équipe qui prend la gorge de n'importe quelle équipe adverse, quoi. Et je pense qu'il est évidemment un des grands artisans avec tous les gens que j'ai cités auparavant de la réussite de Lens aujourd'hui.
Eric.
Président, c'est quand même surprenant de voir cette équipe-là qui était promis à une saison galère avec les soucis financiers de tous les clubs de Ligue 1, mais de Lens en particulier, obligé de vendre certains joueurs depuis pas mal d'années. Est-ce que d'abord c'est une surprise de les voir là, mais bon, je pense qu'on est tous un peu dans le même cas, on est tous un peu surpris. Et est-ce que ça peut tenir jusqu'au bout, parce que il y a quand même un doute vu la profondeur de banc.
Je vais te répondre, Eric, c'est Eric qui a posé la question.
Oui.
Je vais te répondre, Eric, d'abord au niveau financier, d'abord le président qui est en place, c'est pas un nain, hein, je te dis tout de suite, au niveau de ce qu'il a fait dans sa carrière Et c'est un mec qui prévoit exactement, qui avait prévu l'ensemble des conneries de la ligue qu'on a vu et qui a pu avoir de ressources télévision. Donc il a déjà bien travaillé à ce niveau-là. Deuxièmement, je dirais que on avance aussi dans plein de domaines. Je sais pas si vous avez vu hier, il y a eu le rachat du Stade, c'est important.
Eh oui.
C'est notre outil de travail et c'était logique que Lens puisse être propriétaire du Stade. Ça va aller de plus en plus avec comme ça dans l'ensemble des stades en France. On avait déjà un bail emphytéotique, mais c'était essentiel d'avoir la mainmise sur cet outil. Et troisièmement, par rapport à ce que tu dis, moi je pense qu'on a un avantage. J'entendais que vous parliez beaucoup de l'Olympique de Marseille tout à l'heure. Mmh. Et par exemple, on joue pas l'Europe. Donc ça veut dire que.
Et bien sûr.
Je dirais de Sankaré qui va partir jouer la Coupe d'Afrique. On n'est pas trop emmerdé, on ne va pas jouer l'Europe. S'il n'y a pas de pépins, si tu veux, ça permet de bien bosser. C'est pour vous que je vais expliquer ça. Et de continuer à être présent pendant le reste du championnat.
Moi, tu commences à y croire, Hervé. Ah, je te connais, ça y est.
J'y ai toujours cru. Hein,
ça y est, tu y es.
Ça fait 50 ans que j'y vais dans ce club. Bon, dire que même sous la torture, je dirais encore qu'on peut être champion. Donc, mais là, j'ai pas à me torturer.
Non, c'est sûr, t'as pas de torturer, là.
Gervais Martel, le président historique du RC Lens, avec nous dans Rotten sans flamme. Eric, juste avant ta remarque, j'ai juste une question pour vous, Gervais Martel, parce que Lens, c'est un club particulier, un club familial avec une histoire d'amour avec ses supporters, une identité très marquée. Dans un instant, on va recevoir John Textor, qui était donc l'ancien propriétaire de l'OL, l'ancien président, qui a été mis de côté, mais qui a toujours un rôle à l'Olympique Lyonnais, il va nous l'expliquer. Quel est votre regard à vous, justement, sur John Textor, sur la multipropriété et sur ces propriétaires américains qui débarquent comme ça dans les clubs historiques du football français?
Écoute, si vraiment tu l'as en direct après, je veux pas vous gâcher votre soirée. Quoi.
Non,
il est venu vendredi.
J'ai rien contre ce brave homme. Si tu veux, il tire certainement au revolver plus vite que moi. Mais bon, moi, je trouve qu'à un moment donné, ça n'a plus de sens tout ce bordel. Quoi. Avec des mecs qui sont propriétaires, on n'y comprend plus rien. Ils font des transferts, ça part à Molenbeek. Des mecs qui sont surfacturés, pas, qui encore trouvent la voie, qui partent au Brésil, etc. C'est pas le football c'est pas le football que j'aime. Pour être tout à fait franc, après, bon, chacun voit midi à sa porte, mais bon, il va pas me laisser un gros souvenir, tu vois. Autant je regarde De Niro dans tous ses films, autant Textor, qui va bercer le Noël qui arrive.
Non, c'est sûr. Voilà. C'est sûr.
Vas-y, Eric, vas-y.
Non, mais en réalité, puisqu'on est tous d'une autre époque, Gervais, oui, surtout nous, mais c'est ça, c'est que, à l'époque, à ton époque, avant, les présidents, c'était des présidents payeurs, c'était des gens qui étaient implantés, localement, ou qui avaient une attache, en tout cas, longue avec le club et qui jouaient leur vie, avec les finances du club. Là, aujourd'hui, c'est des mercenaires, ou c'est des fonds de pension, où c'est des investisseurs qui viennent jouer avec notre plaisir, quoi. C'est là où on peut être. Est-ce que tu n'es pas désabusé, justement, d'ailleurs, avec ce nouveau football et cette nouvelle manière d'apprendre le football?
Écoute, moi, heureusement que j'ai mon club de cœur, mais je suis un peu désabusé par le football en général. Désabusé par cette Coupe du Monde cette Coupe du Monde des clubs qui n'a pas de sens. Ouais. Désabusé par cette nouvelle formule de Coupe du Monde qu'on va voir. Tout à l'heure, on va qualifier tous les pays. Comme ça sera encore mieux. On pourra jouer un mois pour le pognon, pour faire une grosse Coupe du Monde encore plus importante. Il y a beaucoup de choses qui méritent, si tu veux. Et aujourd'hui, moi, je suis peut-être un peu vieux con. Certainement, je le deviens. Mais moi, j'ai toujours considéré le football. Je suis rentré dedans. J'ai eu la chance de participer, parce que j'ai pas joué au niveau, mais j'ai eu la chance de participer à la vie du foot. C'était autre chose, qu'on tapait dans les mains, on se disait un truc, c'était fini. Maintenant, il y a 40 conseillers juridiques qui interviennent pour faire changer telle ou telle chose. On a compliqué beaucoup de choses. Alors, football, c'est simple, quoi. C'est simplement 11 mecs contre 11 mecs avec un ballon. Et moi, ce qui me passionnait plus quand j'étais président, c'était d'aller aux entraînements et de voir les matchs.
Eh oui.
C'est ça qui me plaisait. Aujourd'hui, c'est devenu d'un complexe entre les notions financières, les décalages de trésorerie, de transfert. Comment voulez-vous qu'un grand public y retrouve quelque chose? Ils ont du mal à s'y retrouver. Les joueurs qui changent trop souvent de club. c'est fini. Moi, je veux des joueurs comme Sico, mais enfin, je peux pas rester arriéré par rapport à 90. Mais,
les joueurs, mais ça existe plus.
Ils embrassent les cuissons et trois mois après, tu les vois partir.
Merci, Germain, d'être venu.
Lui, c'est Majax,
Garcimore réuni. Il sera notre invité dans un instant. Merci, Gervais Martel.
Merci, Gervais, en tout cas. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Et puis, à bientôt pour le titre, alors.
Et dans un instant, John Textor, donc invité de Rotten sans flamme, tous les sujets d'actualité, sa version des faits par rapport à l'Olympique Lyonnais.
Come on, John.
RMC, jusqu'à
20h. Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.